Vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment. Et un crime survient devant vos yeux. Impossible de ne pas regarder. La chaîne télé, Témoin, pour voir la vérité en pleine face. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Cube Radio.
Mon bel amour, est-ce que tu te rends compte que c'est le premier Devine qui vient souper de la saison 2? Donc, ça veut dire qu'on a survécu.
Mon foie a survécu, surtout. Hey, on reçoit Daniel Ouimet et Jean-Claude Lard. Et bon, deux personnes qui ont été importantes dans le cinéma québécois. Et tu sais que moi, bon, je trippe sur le cinéma. Hein? Les auditeurs le savent, les lecteurs le savent.
Mon Dieu, ben c'est la première fois que j'entends parler
et
de ça.
Et quand j'étais jeune, moi, le Bon Dimanche, qui était le magazine culturel du Canal 10 à Télémétropole, c'était un excellent magazine culturel. C'était vraiment très bon. Et Jean-Claude Lard était critique. Et j'écoutais ça religieusement. Il était tough, il était dur. C'est un gars qui vient d'un milieu populaire. Moi, j'ai
son père était quincaillier. Il y avait une quincaillerie près de la rue Jean Talon.
Et j'adorais le regarder. Donc, c'est drôle de le recevoir soudainement à la maison.
À la maison. Puis c'est intéressant que tu dis, il a été chroniqueur cinéma, donc avec Suzanne Lévesque à Bon Dimanche.
Oui.
Et il l'a été ensuite avec Jacques Boulanger. Puis c'est en côtoyant Jacques Boulanger à Boubou dans le métro, qu'il a eu l'idée de faire Parlez-nous d'amour, qui a été un film extrêmement important dans l'histoire du cinéma québécois.
Mon film culte. Tu sais, il y a des films qui sont mieux réalisés que ça, il y a des films qui sont plus profonds, qui sont plus complexes, bien sûr, Les Ordres, etc. Bon, les films de Denis Arcand, blablabla. Mais Parlez-nous d'amour, c'est un ovni. C'est une soucoupe volante dans le cinéma québécois, une critique virulente, assassine des coulisses de la télévision, un film qu'on ne pourra plus faire aujourd'hui. Ce serait
impossible.
Mais non,
on pourrait plus faire, mais c'est intéressant. Parce que on va en parler évidemment avec Jean-Claude quand il va être là. Mais t'as déjà, d'ailleurs, j'ai retrouvé tout à l'heure une chronique que t'avais écrite en disant que c'était ton film québécois préféré.
Oui.
Mais fermons la parenthèse. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est que dans ce film-là, à un moment donné, il y a un personnage qui est comme vraiment un prédateur sexuel qui se tape toutes les jeunes femmes dans le milieu de la télé. Et tu te demandes, si tu regardes ça aujourd'hui, tu te demandes si c'était pas soit un portrait de Guy Cloutier ou précurseur de ce qui allait arriver avec Guy Cloutier, Harvey Weinstein, toute cette gang-là.
Il était des années, imagine, des années 70 à Télévision Québec. C'était toutes des poignées de cul.
Oui.
Toutes.
Mais
c'est ce qu'il montre dans son film, c'est que pour avoir une carrière à l'époque, là, que ce soit chanteuse ou passer à la télévision...
Pour faire des pipes!
Fallait faire des pipes! Vraiment, comme Brigitte Fontaine, c'est une chanteuse française, elle était dans un talk show et on lui a demandé, il y a une jeune qui a demandé, mais comment je fais pour commencer dans la chanson Madame Fontaine? Et Brigitte Fontaine, en direct à la télévision française, elle a dit, mais il faut faire des pipes!
Et depuis ce temps-là, on parle de la femme Fontaine. Non, ça n'a rien à voir. Mais tu sais, si le milieu que ces gens-là décrivaient, c'était vraiment ça, est-ce que Danielle, elle a vécu ça? D'autant plus que, tu sais, elle se mettait tout nue dans ses films. Fait qu'est-ce que les gens lui disaient? Ben, de toute façon, tu te mets tout nu. Fait que, tu sais, entre se mettre tout nu, une fois tout nu, autant coucher. Et surtout, écoute, quand elle avait fait Valérie, là, les gens pensaient vraiment que c'était une cruche puis que c'était juste une fille qui avait un beau corps. Mais je veux dire, je regardais des entrevues, une entrevue qu'elle a faite avec Lise Payette en 1972. Écoute, premièrement, Danielle, elle s'exprime dans un français impeccable. Et c'est une femme extrêmement intelligente. Donc, il a fallu qu'elle se batte pour faire reconnaître que c'était pas juste une paire de seins, puis qu'elle était intelligente. Puis c'est pour ça qu'elle est dure, puis qu'elle est encore pertinente aujourd'hui.
Et parlant de paire de seins, et tu disais de films où les gens étaient tout nus dans les années 70, il y a une scène, je reviens à Parlez-nous d'amour, il y a une scène culte, OK, où Jacques Boulanger anime son fameux show de variété devant des madames, tu sais, c'est des vieilles madames, tu sais, la madame dans le panet, là, bon, des madames de 60-70 ans, grassettes, grosses, etc. Et à un moment donné, il les imagine toutes tout nues.
Ouais,
et
ouais.
Là, tu as un plan où tu as comme 200 madames, comme obèses, vieilles, toutes tout nues.
Ah, c'est capable.
Alors là, sais-tu comment il a tourné ça? Je le dirai pas. Jean-Claude Lard va le dévoiler, comment il a réussi.
La réponse ou tu la connais pas?
Je connais la réponse, mais il l'a déjà dit dans un restaurant.
Ah.
J'étais allé voir le restaurant, j'ai dit, comment t'as fait ça pour avoir toutes des vieilles madames comme ça qui se sont mis tout nus pour
surtout
ton film?
Surtout qu'à un moment donné...
Et il va nous le dire tantôt. C'est
astucieux. Je suis un peu déçue parce que pendant 20 épisodes précédents de Devine qui vient souper, on a toujours fait des blagues sur le vin, le twist cap, le vin, t'es pas capable d'ouvrir une bouteille de vin. Et là, on a fait comme zéro commentaire sur le vin. Fait que je sais pas, qu'est-ce qui se passe?
Parce qu'on l'avait ouvert avant.
Ben, c'est parce que mais j'ai même pas bu encore, j'ai même pas trempé mes lèvres dedans. Je sais même pas c'est quoi qu'on boit.
Du vin blanc.
Toi, quand t'as vu les seins de Daniel Ouimet la première fois, étais-tu comme « Oh, bading, badoon, badang! » C'est la première fois qu'on voyait des seins dans un film québécois. Et Dieu sait que toi, t'aimes les seins des femmes, là, on peut le dire publiquement. J'ai aucune jalousie, moi, ça me dérange pas. Là. Ils sont magnifiques, ces seins, là.
Toutes sortes de formes de seins.
Toutes formes de seins.
Oui.
Mais préférablement pas trop petits,
ben,
quand même.
Féminin.
Salut!
J'entends ça, qu'est-ce que tu racontes?
On est allé au village Valcartier, bonjour!
Bonjour!
Il y avait un monsieur qui avait des seins, mais des gros seins tombants. Il y avait des seins plus gros que les miens. Bonjour Jean-Claude!
Je pensais que tu étais en train de parler de moi, j'ai dit, mais je vais
aller. Franchement!
Allô, Jean-Claude!
Bonjour, toi!
Allô, bonjour, c'est
Jean-Claude! Bonjour! Hey, merci d'être là!
Salut, madame!
Bonjour!
Plaisir.
Quel plaisir de te recevoir.
Ouais, mais moi, quel plaisir d'être reçu.
En effet. C'est pas la première fois que vous vous rencontrez.
Oui, depuis longtemps, oui.
Depuis très longtemps.
Depuis très longtemps.
Oui.
Très longtemps.
Ouais. Ça, c'est bizarre que vous ne soyez pas plus croisés que ça dans ce milieu-là, si petit.
Moi, un petit peu sauvage, mais fait que je me fais.
Toi, t'es sauvage ou t'es un paria? On ne sait pas, là. Si,
oui, c'est ta réputation.
Est-ce que c'est toi qui fuis le milieu ou le milieu qui fuit?
Un peu des deux.
Voulez-vous rentrer dans notre humble demeure?
On va
commencer par l'apéro, mais toi, tu bois pas de vin?
Non.
Pourquoi? Il y a une raison ou tu peux le dire publiquement ou c'est juste que t'aimes pas ça?
Je te dis, j'aime pas bien ça parce que je me sens pas bien après.
Ah, OK.
On a reçu quand même pas mal d'invités qui ne buvaient plus.
Qui ne buvaient plus. Oui. On a reçu Dany Saint-Pierre, le chef, qui buvait plus parce qu'il disait dans le milieu de la restauration, il y avait vraiment trop de consommation de vin. Toi, tu as déjà été marié avec un restaurateur, non?
Oui! Mon Dieu!
Ben là, je lis sur mes invités avant de les recevoir. Oui, puis t'étais toute seule le soir, puis c'est comme ça que t'as commencé à peindre.
Ah ouais, exact, tout à fait. Et d'ailleurs, je l'ai laissé parce qu'il buvait trop.
Moi, ma dernière brosse remonte à 20 ans.
Hein?
C'était au saké, dans un restaurant à Vancouver, de retour de Shanghai. Hostie!
Attends, mais une brosse au saké, c'est dur.
C'est dégueulasse.
On se garochait des serviettes à travers le restaurant. Rien que j'ai pas fait.
Monsieur Pelladeau, un jour, m'avait dit quelque chose, parce que lui, il ne buvait pas, puis j'étais à table avec lui, puis il me dit, Daniel, prends-toi quelque chose à boire. Ben, je dis, non, écoute, je veux quand même pas te faire ça, te boire dans la figure. Et il me dit, écoute, je vais te poser une seule question. Il dit, quand tu bois, est-ce que t'es triste ou joyeuse? Ben, j'ai dit, joyeuse, voyons donc. Ben, il dit, voilà, continue.
J'ai une question à te poser, Jean-Claude, avant qu'on s'assoie à la table et qu'on mange l'entrée.
Oui, il faut donner un verre de vin à Daniel parce qu'elle boit, elle.
OK, la question que je te pose, pourquoi quand tu as commencé à faire du cinéma, ça aurait été facile pour toi de surfer sur la vague des comédies érotiques? Il y en avait plein, là, il y a plus de toi, Percy, l'initiation, l'explosion, tout ça. T'as tenu à faire comme des films politiques. T'étais le Costa Gavras un peu du cinéma québécois. Pourquoi tu t'es entêté là-dessus? Parce que t'aurais pu surfer, t'aurais pu faire un film après l'autre de comédie érotique. Là, c'était la grosse mode à l'époque. Ouais,
on m'avait donné comme mission d'être curé. Alors j'ai pris une autre façon de faire curé, c'est de faire des films à message.
C'est ça que tu voulais faire dès le début.
C'est ça que je voulais faire dès le début.
Tu prêchais
des films à message. C'est Z de Costa Gavras qui m'a éloigné comme ça.
Ouais.
Non. Parce que dans tout ce que j'ai fait, il y a une douzaine de projets, soit long métrage, soit série, soit documentaire, qui sont des projets que j'appelle personnels, où j'ai des choses à montrer, des choses à dire. Tout le reste, c'est du divertissement. Alors, tant que j'ai pu faire ce genre de trucs-là, je les ai faits. Puis après ça, quand ce n'était plus possible, ben j'ai switché. Occasionnellement, j'ai réussi à en faire, mais c'est très...
Merci. T'aurais pu remonter dans un train en marche, ça aurait été facile de faire...
J'ai eu bien des ennuis avec TVA. sur différentes séries à cause du puritanisme. Et puis Fugueuse, quand j'ai regardé, c'est enfin.
Ah oui, hein?
C'est-à-dire, quand tu vois un gars puis une fille de 20 ans baiser, ils ne sont pas sous les couvertes, ils ne sont pas avec des...
Valérie, on nous collait le drap avec du double face tape.
C'est pas sérieux?
Oui, sur les fesses.
On voit
des
fesses.
Ben oui.
Ils sont formels.
Je te jure, on nous collait le... Oui, mais tu le sais, c'est un procédé normal en cinéma.
Alors,
on nous
colle J'ai parlé à Michel Allen qui écrivait le scénario. Puis j'ai dit, enfin, TVA mis ses culottes.
Mis ses culottes en enlevant les culottes à ses personnages.
Non, en faisant quelque chose de réaliste.
Mais ben oui, tu connais?
Non.
Les gars ne veulent pas avoir une érection devant un écran.
Mais de toute façon, impossible. On ne peut pas montrer une érection à heure de grande écoute à TVA. Là.
Ben,
moi, j'ai vécu souvent. Tu sais ce qu'ils font? Quand ils ont une scène amoureuse à faire, là, juste avant qu'on fasse la scène amoureuse, ils sont aux toilettes.
Ah!
Ben oui.
Puis ils sortent une photo.
Ils se déchargent. Puis là,
ben oui.
Pour avoir des réactions pendant la scène.
Non, mais ça, c'est parce que les gens oublient comment c'est technique quand on s'installe devant une caméra, puis on dit go. Puis là, t'as le réalisateur qui parle. Puis là, ben, non. Et l'éclairage n'est pas à bonne place. Il faut recommencer. Écoute, les gens ne le savent pas comment c'est technique et ça n'a rien à voir avec une scène de cul.
Moi, dans une de mes blondes, j'en ai pas eu tant que ça.
Dans cette
période-là, à certains moments donnés, elle filait pas. Puis elle m'a demandé, elle dit, il y a un gars qui me tente, là, je tourne ailleurs, là, je peux-tu? Je dis, vas-y, si ça te fait plaisir.
Puis ça t'a pas tourmenté?
Non.
Puis, mais ça a duré combien de temps? Juste un one-night stand?
Non, si elle tombe en amour avec quelqu'un d'autre, ça c'est autre chose.
Ben non, c'est ça.
Mais juste une relation sexuelle.
Je te le dis, Richard, là! Ça va faire 17 ans dans deux semaines, d'ailleurs. Ça va faire 17 ans qu'on est ensemble, 16 ans qu'on est mariés. Pense-y même pas! Pense-y même pas!
OK, on va manger l'entrée.
Ouais, c'est ça!
Tu viendras voir.
Hey, juste avant qu'on commence à vous présenter ce qu'on mange, des petites saucisses italiennes... avec épicé, avec des poivrons.
Déjeté.
Et pour ceux qui en mangent, c'est-à-dire pas Jean-Claude, des avocats avec des petites crevettes.
Ah, génial.
Voilà. Et le vin a été choisi par...
Et le vin, on boit du blanc. Écoute, justement choisi pour aller avec ça, notre repas italien, c'est l'Ecrete Lugana Otella, choisi par Patrick Desi de Méchant Raisin.
Méchant Raisin, c'est cute! J'en connais une gang qui sont des méchants raisins.
On va-tu avoir des noms?
On verra au fur et à mesure qu'on parle.
Bon appétit,
moi, je suis un fan de cinéma. J'ai des milliers de films en DVD. Plein de films, mais évidemment, moi, j'ai grandi à Verdun. J'étais un petit cul de Verdun. Et je regardais religieusement Jean-Claude à Bon Dimanche. Et il mâchait pas ses mots. Puis t'avais pas vraiment la langue dans ta poche. Puis quand un film était poche, tu disais qu'il était poche, même si c'était un film québécois. Non, t'étais plus gentil que les films québécois?
T'avais pas le choix?
OK.
On disait d'être plus gentil que les films québécois?
On va faire une histoire courte. Je suis rentré là par hasard.
Ah oui?
Parce que je travaillais à la Cité des Jeunes de Vaudreuil, à temps partiel.
À la Cité des Jeunes de Vaudreuil?
Oui, avec Pierre Patrie. Et... le bibliothécaire était le frère du réalisateur de Bon Dimanche.
Hey boy, OK.
J'ai dit, pourquoi que ton frère fait des chroniques de toutes sortes de choses, pourquoi qu'il n'en fait pas une de cinéma? Il me dit, ben, va dans les faire, toi. J'ai dit, ça va pas, non? J'ai jamais fait ça. Au bout de deux semaines, j'ai dit, donc, qu'est-ce que j'ai à perdre? J'ai allé rencontrer le réalisateur. C'était le mardi.
Fait que t'étais no fucking body, comme on dit.
Et le dimanche, j'étais en nom.
Et ça a été, ça a tout de suite marché, là.
Exact.
Parce qu'il y a plein de gens, j'ai entendu une entrevue de toi avec un journaliste de Radio-Canada, Stéphane Bureau, et il disait à quel point tu lui avais communiqué ton amour du cinéma. Donc, il y a plein de petits culs comme Stéphane, Richard, plein de gens.
Le langage que j'avais ne serait plus possible maintenant.
Pourquoi? Qu'est-ce que tu pourrais plus dire?
Je serais censuré dans le langage.
Ben voyons.
Comme, donne-moi un exemple.
Faut être gentil maintenant, quoi, il faut.
Bon, un moment donné... il y avait encore des films soi-disant érotiques qui étaient dans les salles de cinéma.
Ouais.
Les critiques n'allaient jamais voir ça. Moi, j'y allais.
OK.
Et j'en parlais.
Les fesses en folie, puis...
Oh, je me souviens plus des titres. Et, à un moment donné, moi, je ne me gênais pas. Bon, ça, là, ce film-là, là, ça ne vaut pas de la merde, mais si vous voulez voir un beau gars avec une belle grande étiquette, c'est là qu'il faut aller. Sinon, si la fille, ouais, est moins bonne, elle est moins belle, mais dans l'autre, à côté, elle est meilleure. Fait qu'elle est plus belle. Fait que choisissez ce que vous voulez. Je ne pourrais pas faire ça.
Tu pourrais pas dire quéquette?
Je pourrais pas
dire que le film, c'est de la merde, puis tu pourrais pas...
Ben, je sais pas.
Dire que le film est de la merde, ça pas
je sais pas, je sais pas. C'est drôle. Si, moi, je trouve que c'est les directeurs qui sont frileux.
Mais à l'époque, là, les films québécois...
Les films québécois...
Tu disais, c'est un film québécois, il faut que je sois plus gentil.
C'était Télémétropole. Télémétropole était aussi propriétaire du cinéma Saint-Denis.
Oui.
Ouais. Ah, je savais pas ça.
De Saint-Denis et Bijoux.
Et Bijoux, c'est sur Bijoux, Papineau. Et, à un moment donné, ils m'ont dit, ça a pris quand même un bout de temps, peut-être un an et demi, il faudrait que tu sois plus gentil avec nos films.
Oh. Ah, ben oui, évidemment.
Je dis OK.
Ben oui.
J'en parlerai pas.
Ben, encore aujourd'hui, d'ailleurs.
J'en parlerai pas, point.
Faut que tu sois plus gentil avec nos films, t'as dit, j'en parlerai pas.
Non. Point de vos films, c'est tout. Et est arrivé les films québécois. Mais là, j'étais baisé, je ne pouvais pas les ignorer. Alors, ce que j'ai fait, j'en ai parlé pareil, mais j'ai invité le réalisateur à mes côtés pendant que je faisais la chronique.
Ah,
pour qu'il ait
oui.
son mot à dire sur ce que je disais.
Pour qu'il puisse se défendre.
Ils n'ont pas tous accepté, mais tous ceux qui acceptaient, entre autres Fournier et d'autres, ben, ils sont venus, puis ils ont eu leur droit de parole, si tu veux, et je trouvais ça fair.
Oui, okay? C'est beaucoup plus intelligent.
Je trouvais ça fair. Et au bout de 3 ans, pour des raisons que j'ignore,
merci.
J'ai appris par l'éco-vedette ou je ne sais pas quoi, que je n'étais plus là.
T'as appris dans les médias?
Ah oui, bien, on apprenait ça.
C'est 3 ans, toi.
On apprenait ça dans les journaux.
3 ans, puis un an à Radio-Canada. Un an à Radio-Canada, à Boubou dans le métro.
Ah oui.
Et c'est là que j'ai rencontré Jacques Boulanger.
Et
c'est là qu'a fait parler de nous.
C'était quoi ton critère pour choisir quelqu'un pour être devant les caméras?
Comme comédien, tu veux?
Oui, bien sûr. Être devant les caméras, c'est comédien.
Que l'instinct.
Ah oui?
Que l'instinct. C'est plus le cas maintenant.
Non. Aujourd'hui, tu es obligé d'avoir un nom ou d'avoir un suivi.
Ah, il y a toutes sortes de règlements à suivre. Mais à l'époque, j'ai été privilégié parce qu'à cette époque-là, les années 70, j'avais le contrôle de ce que je faisais.
À quel moment tu as perdu le contrôle? Sur l'ancien compte, avais-tu le contrôle?
La première année, oui.
La première année?
Parce que c'était une première. Oui. On n'avait jamais fait ça. Moi, je n'avais jamais fait de télé. Régent Tremblay n'avait jamais écrit pour la télé. Et Claude Héroux n'avait jamais produit de télé. Donc, entre le mois de juin, où il y avait 4 demi-heures d'écrites, et le mois d'août, c'était devenu 13 fois une heure, avec coproduction avec Paris, et coproduction avec CBC, tournée dans les deux langues.
C'est vrai, he shoots, he scores. J'avais oublié que ça avait été fait dans les deux langues.
Et ça allait tellement vite, que quand je recevais les rapports de lecture de Téléfilm Canada, les épisodes étaient déjà tournés.
Non!
Fait que je m'en foutais complètement, j'avais... C'est probablement la série, à part celle que je produisais moi-même, c'est probablement la série où j'ai eu la plus de latitude et le plus de contrôle sur tous les aspects. Casting, scénario, réécriture de scénario, réécriture d'histoire. Régent me donnait sa première version sur laquelle on s'était entendu. Je faisais la deuxième et la troisième. Et puis, à un moment donné, ça avait tellement envie de changer des affaires. Puis, personne ne s'en apercevait. Puis, tout le monde trouvait ça bon. Puis, fini.
Tu réécrivais les textes de Régent?
Oui, les deuxième ou troisième versions. Pas les premières, j'avais pas la matière, moi, pour ça. Là,
Ben non, c'est sûr.
Dans Valérie, on écrivait tous les matins, nous autres.
Ah! Oui, puis Dieu sait qu'il y avait beaucoup de dialogues, hein?
Oh, toi, je vais entendre parler tout à l'heure.
mais donc, l'ancien compte, des fois, même à la, donc même sur le plateau, tu faisais changer des répliques aux comédiens.
Oui.
Mais t'as pas eu de crédit de scénariste?
Script éditeur.
Un script éditeur.
Ah, ouais, quand même.
Et ça, c'était. Jasmine, ça a été beaucoup plus compliqué.
Déjà?
Beaucoup plus compliqué. Tous les textes avaient été écrits d'avance avec la compagnie Cossien.
Ah, mon Dieu, Cossien.
Qui était l'ancêtre de Zone.
Ça me rappelle, je sais.
Fait les francs-tireurs.
Et on est allé voir TVA à l'automne. Ils ont dit oui, on accepte, go. Rendu au milieu de. au tiers de la pré-production, quand il y avait déjà des sommes engagées, Téléfilm Canada, François Massérola, téléphoné à TVA pour dire « Retirez-vous de ce projet-là, ça ne vaut pas de la mort. »
Hein?
TVA s'est retiré en exigeant des modifications. J'ai fait le minimum de modifications parce que je ne voulais pas dénaturer ce qu'on faisait.
Ouais. C'est quel genre de modification? C'est quoi, dans le casting? Ou...
Oh, c'était trop anti-québécois, trop pro-ethnique, trop ci, trop ça,
trop
mal écrit.
Trop pro-ethnique?
Oui. OK. Et, une fois qu'on a eu terminé cette phase-là,
alors qu'aujourd'hui,
minimaliste, on a resoumis le texte, mais là, à ce moment-là, André Provencher venait d'entrer la même semaine comme directeur des programmes, et André Provencher avait développé le projet avec nous à Cossier. Donc, ça a passé. Et à la toute fin, quand c'est sorti, j'ai quand même mentionné à une conférence de presse que Téléfilm ne nous avait pas aidés dans cette histoire-là. Résultat, la semaine suivante, convoqué par François Massérola dans un restaurant avec Louis Laverdière. Et la première chose que François, je peux en parler, il est mort au restaurant. Mais la première chose qu'il a faite en arrivant, alors qu'il est encore debout, « Jaillis ce que tu fais, tu as le droit de le faire. » Puis c'est assis.
Eh hey boy, ça commençait bien.
Fait que c'est le genre de relation que j'ai avec les organismes. Ben, à l'époque de Jasmine, si tu veux, là, si on m'avait dit, ben là, il y a un scénario intéressant avec deux, trois rôles importants d'autochtones, j'aurais dit non.
Parce qu'il n'y avait pas les comédiens
parce
pour
jouer. Pas les comédiens.
Ben non, encore aujourd'hui, il ne l'a pas.
Ah non.
Tu peux les compter sur le doigt d'une main.
Oui, je sais.
Mais c'est pour ça que c'est absurde, parce qu'il y a des gens qui disent qu'il faut prendre plus de montrer plus d'Autochtones à la télé.
Mais
oui,
en
mais
même temps,
y a-tu les comédiens pour jouer ces rôles-là?
Il y a ça, mais il y a aussi que les auteurs ne connaissent pas les milieux culturels. Et donc, ils ont de la misère à écrire pour eux. Sauf des petits rôles épisodiques et des choses comme ça, mais ils ont de la misère. Moi, sur l'ancien compte, quand j'ai décidé qu'on avait une médecin noire qui allait jouer là, tout ça.
Elle est totalement belle.
Je me suis fait...
Quoi? Il y a des gens qui n'étaient pas contents?
Ben, ils me disaient, ça n'a pas d'allure, ça n'existe pas, ça n'a pas de bon sens.
Ça n'existe pas, les médecins noirs?
Une femme médecin noire.
En 85.
C'est ça, écoute.
Et à un moment donné, les gens ne savaient pas comment écrire les scènes dans la famille de cette femme-là.
Ah oui!
C'est elle qui les a écrites.
T'es pas sérieux?
Ben oui!
C'est la comédienne qui a écrit ces scènes-là.
Ben, on savait la nature de la scène, ce qu'elle devait donner, mais la façon de l'écrire, puis les dialogues, puis tout ça, c'est elle qui les a écrits. Parce que moi non plus, je savais pas. Les scénaristes, peut-être moins vrai maintenant, mais pendant très longtemps, ne pouvaient pas mettre des personnages ethniques à l'écran parce qu'ils savaient pas comment les écrire. Ben.
Je fais rien qu'un lien, là, parce que tu dis les scénarios étaient analysés, puis là, il y a des organismes qui vont dire oui, mais c'est pas, ça va pas dans le bon sens. Blablabla. Valérie, là, quand tu as reçu le scénario, Daniel, là, c'était écrit sur l'envers d'un carton d'allumettes, là.
C'est
non,
tout
le scénario, c'était quoi? C'est une fille sort du couvent, elle se montre les tétons, puis
exact.
C'est ça.
Mais ce scénario-là n'était pas aussi explicite que ça. Je veux dire, quand à un moment donné...
Mais
le
scénario,
donné,
c'est un paragraphe.
Mais t'as pas découvert, en arrivant sur le lieu de tournage, que tu te mettais tout nu?
Mais oui.
C'était pas écrit dans le scénario, elle est tout nue.
Je vous explique. À un moment donné, il y a des grandes pages, soit des grandes pages de
scénario,
de bon, OK?
8,5 par 11, oui.
D'un côté, il y a l'audio, puis de l'autre côté, il y a le vidéo.
Oui.
OK? Alors, l'audio, c'est ce que tu entends, c'est le dialogue. Et le vidéo, c'est ce que tu fais, le mouvement.
Oui.
Et ils expliquaient ça au fur et à mesure. Mais moi, quand j'ai passé l'audition, à un moment donné, elle va s'acheter une robe. Elle laissait la robe.
Mais elle se met tout nue et s'observe pendant 10 minutes dans le miroir.
Et non. Puis même, il l'embrasse. Là, c'est ce que je savais qu'il fallait que je l'embrasse. Et ils sont tous les deux dans le lit. Ben, je dis, OK, on va avoir les draps.
C'est très drôle.
Tout ça. Et un jour, je suis dans une scène où il faut effectivement la scène de la fameuse robe. Et là, Denis me dit, bon, ben là, j'ai fait vider le plateau. J'ai dit, pourquoi tu fais vider le plateau? Je trouvais ça drôle. J'ai dit, pourquoi tu fais vider le plateau? Ben, on va être juste moi, la script et puis le son. Puis c'est tout. Après ça, l'éclairage a été fait avant. J'ai dit, pourquoi? Ben, tu sais la robe. J'ai dit, oui, mais je sais la robe. Oui, je sais la robe.
C'est très drôle.
Le rideau va être ouvert. Je dis, ben voyons donc, le rideau va être ouvert. Il dit, oui, oui, oui. Et là, il a vu que j'étais complètement paniquée. Et là, il est venu me voir, puis il m'a dit, écoute, c'était écrit. Puis là, je dis, ben oui, mais l'essaye une robe, c'était pas écrit. Je me disais, ben oui, il dit, obligatoirement, si tu essayes la robe, c'était pas... Et là, j'ai littéralement décidé de ma vie en 10 minutes assis sur une boîte de pommes.
C'est très
Je me suis assis sur une boîte de pommes, puis il m'a dit, Daniel, il dit, c'est pas méchant ce que je te dis là, mais il dit, moi, j'ai une vue sur ce film-là. Il dit, dis-moi là tout de suite, si tu veux pas faire ça, si tu veux pas continuer, on va prendre quelqu'un d'autre.
OK, là, tu étais face à un carrefour.
Ouais.
Un carrefour.
Un Y sur le chemin.
Il y a une équipe qui attend.
Ouais.
Toi, tu es assis sur
une boîte de pommes, ce que j'appelle la boîte de pommes. Tu sais ce que c'est qu'une boîte de pommes?
Absolument. Tu as 10 minutes.
J'ai 10 minutes pour
c'est
penser.
C'est excellent.
Et j'ai décidé du restant de ma vie en 10 minutes.
Mais il faut rappeler, et c'est très, j'adore cette anecdote-là, parce qu'il y a vraiment tous dans nos vies des moments où
clé.
Ouais. Tu vas à droite, tu vois à gauche.
Exact.
Ta vie est changée à tout jamais.
Absolument.
Et c'est des directions vraiment opposées. Mais ce que j'adore, c'est que tu racontes cette histoire-là, et il faut se rappeler, t'avais 21 ans.
Ouais, ouais.
T'étais une petite puce de rien du tout.
Ouais.
Mais t'étais à l'aise avec ton corps.
Pas là.
C'est incroyable, hein, parce qu'on a revu...
cette journée-là.
On a revu Valérie.
Ouais, oui, je sais, c'est 50 ans.
C'est toi qui t'as invité. C'est toi qui
50 ans, merci beaucoup de l'invitation. On a revu Valérie, et moi, ça me frappait à quel point t'étais bien dans ton corps.
Eh bien, c'est parce que vous ne me connaissez pas. Parce que, je vous le jure sur la tête de ce que j'ai pu... Toi, tu dois savoir les problèmes des comédiennes quand elles se présentent sur le plateau, puis il faut tourner, puis comment
c'est pas facile.
Tu le sais, hein, Jean-Claude.
Donc, tu jures sur ce que tu as de plus précieux au monde que...
Alors, je vous jure que moi, j'habitais chez mes parents à l'époque avec ma sœur dans la même chambre, et jamais je me déshabillais devant ma sœur. J'étais dans la garde-robe, je me m'habillais, je me déshabillais devant la garde-robe. Je mettais jamais de bikini, jamais.
De bikini?
Jamais. Donc, t'étais prude.
Jamais, jamais.
Pudique.
D'une pudeur et d'une pruderie incroyable.
OK, donc t'étais une sacrée bonne comédienne. T'étais une sacrée bonne comédienne, parce que moi, je te sens
très bien. Non. J'avais invité des gens à assister à Valérie dernièrement, et j'étais assise dans, et je regardais ça, parce que j'oubliais, bien sûr, je me disais, t'as pas quoi, je peux pas croire en compte nu. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, oh là, regarde Daniel, là. Et puis, effectivement, j'ai les mains qui sont pas à l'aise. J'ai les mains qui essayent de me cacher. Je regardais.
Donc, toi, tu lis ton langage corporel et tu vois.
Absolument. Ah, ouais.
Il faut se remettre, là, pour les plus jeunes. Je vais faire un contexte historique.
Toi aussi, tu rentres là-dedans parce que t'étais là.
À l'époque, il y avait des films qui sortaient au Québec, comme Onibaba, qui est un film japonais, comme Je suis curieuse jaune, qui est un film suédois,
exact.
Comme Hiroshima, mon amour, de René, qui est un film français.
Qui avait été censuré au Québec, qui était allé voir à New York.
Et plein de films qui montraient des seins. Puis là, soudainement, Denis Héroux, il a dit, ben là, il est temps qu'il faut déshabiller la petite Québécoise. Ça, c'est sa phrase. Il faut déshabiller les petites Québécoises. Pourquoi on regarderait des totons japonais, des totons suédois, des totons français quand on a de si beaux totons au Québec? Ouais. C'est ça qu'il a dit, là. Puis là, il a dit, il faut choisir les premiers totons qu'on va montrer. Et c'était toi!
C'est ça, exactement.
Et c'était toi.
Mais tu avais eu un enfant 2 ans avant, c'est quand même...
Un an avant. Mon fils...
OK, parce que le film est sorti, tu avais 21 ans, mais tu l'as fait, tu avais 20 ans.
Oui.
Et toi, tu te souviens de la première fois que tu as vu Valérie?
Oui, c'est ça.
Comment tu te sentais face à ce genre de film-là? Toi, tu étais un gars, tu aimais Costa Gavrance, tu aimais les films à Messence, tu aimais les films...
Je suis pas sûr que j'avais aimé le film. Par contre, le succès de ce film-là a été extrêmement important pour la cinématographie québécoise.
C'est vrai.
Ouais.
Parce que c'est la première fois qu'il y avait vraiment une masse de spectateurs qui se sont déplacés pour aller voir le film.
Donc, c'est le premier film populaire québécois.
C'est ça.
C'était-tu avant Deux Femmes en Or?
Oui, c'était le premier.
Bien,
l'initiation de Deux Femmes en Or ont suivi. Alors, ces films-là ont amené une bonne partie des Québécois au cinéma. Mm. Et donc, moi, ça m'a aidé dans mes films qui sont suivis.
Mm. Oui, parce qu'on s'est dit que le cinéma était viable éventuellement.
Oui, alors, donc, c'est comme ça que ça s'est passé. Et, je me souviens pas de ce que j'ai dit sur le film.
Dis-moi merci! Dis-moi merci!
Merci!
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Visiting Hours, mon premier film en anglais. Et j'ai été chanceux. Je me suis bien entendu avec le scénariste de Los Angeles, Brian Tiger. J'avais un bon cast. Et j'ai fait le film. Je l'ai monté moi-même. Hein? Et c'était un film indépendant. Et dès le premier montage, 20th Century Fox l'a acheté.
Wow!
Et donc, je me suis retrouvé, des fois, en me promenant sur Sunset Boulevard avec des gros billboards annonçant Visiting Hours dans 3 mois. Et la première sortie, il y avait 1000 cinémas aux États-Unis. Et il était deuxième au box-office la deuxième semaine aux États-Unis.
Et toi qui étais le petit cul de...
petit cul de la rue Sandy.
C'est fou, les gens n'ont pas une mémoire. Ils ont,
non,
on serait aux États-Unis, là. On serait aux États-Unis, on serait des cultes.
Ben oui.
On chasse deux pieds.
Ben oui.
Tout à fait.
Ça a été,
tu jouais dans le dernier Tarantino, là, il aime ça sortir des comédiens cultes, un peu de ça, là, tu sais. Mais je te dis, il y a un revival de celui-là. Donc,
Sunset
Boulevard. Oui.
Avec quel gros billboard qui annonçait le film de 3 mois d'avance.
C'est très drôle. Mais est-ce que tu aurais aimé continuer puis faire une carrière aux États-Unis? Est-ce que tu penses que...
J'ai essayé.
Tu as essayé, mais ça n'a pas marché comme tu voulais.
Ça n'a pas marché pour 2 raisons. Un, peut-être que je n'étais pas assez bon pour ça. Mais surtout, il aurait fallu que je m'installe là-bas. J'ai proposé bien des... Ça n'a jamais marché. Il aurait fallu que je m'installe là-bas. Il n'était pas question que je m'installe là-bas. J'avais une femme, des enfants, puis je ne voulais pas les amener là-bas.
Ouais,
là-bas.
C'est ça.
Alors donc...
Si t'es pas là-bas, ben
non.
Ça marche pas.
Non, j'allais...
Il faut que t'ailles là-bas, là.
J'allais 4-5 fois par année, pendant 10 jours, mais ça marche pas.
Mais c'est intéressant, ça, parce que c'est un choix que t'as fait pour ta famille aussi.
Oui.
Parce qu'habituellement, on entend des femmes qui disent « Ah, ben là, tu sais, je peux pas faire ci et ça à cause de ma famille, mes enfants. » Mais qu'un gars dise ça, j'avoue que je suis impressionnée.
Est-ce que c'est un regret aujourd'hui? Est-ce que tu te dis, si je les avais amenés, peut-être qu'on aurait eu une autre vie, puis
je pense pas.
J'aurais moins de misère aujourd'hui?
C'était prématuré pour que des Québécois francophones commencent à faire carrière aux États-Unis. Denis Arcand a ouvert la porte un peu, puis après ça, graduellement, les autres ont suivi.
Mais Jean-Marc Vallée, Denis Villeneuve, Falardeau,
mais le fait de faire un film en anglais pour les Américains, en 1980, j'étais un traître
mais
à la patrie.
C'était vu comme un traître. Premièrement, un traître à deux niveaux. Mm. Un, t'étais un gars de film à message.
Oui.
Puis là, soudainement, il faisait un film commercial, un petit film d'horreur. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait? Il vend son âme au diable. Moi, je me souviens que c'est ce que j'avais entendu. Mm. Puis deuxièmement, à l'époque, avoir une carrière anglophone, c'était très mal vu. Hein?
Oui, absolument. Une double trahison.
Pour les nationalistes québécois, tu trahissais la cause.
Oui, je sais.
Ça, c'est
dit. On était traités comme une pute. C'est pour ça que j'ai fait un film sur les travails du sexe.
Ah! tu connaissais le sujet.
La censure a bien changé avec le temps. Elle est devenue beaucoup plus sournoise.
Ouais.
Plus vicieuse. Elle est maintenant contrôlée par ou des producteurs ou des diffuseurs qui font en sorte que tu ne peux pas parler de ça, tu ne peux pas faire ci, tu ne peux pas faire ça. Et si tu ne te plies pas à cette censure-là,
tu n'as pas de job.
Quand tu as eu Slav, par exemple, que des gens ont eu des problèmes avec la distribution de Slav, moi, je n'ai pas de problème avec ça. Ce que je sais avec quoi j'ai des problèmes, c'est qu'ils aient annulé le show.
Mais oui.
Ah, oui.
Parce que servez-vous de ça, même si c'est maladroit, même s'il y a quelque chose qui ne va pas dedans.
Pour avoir une discussion,
puis éventuellement plus tard, améliorer. Mais tu ne peux pas. À partir du moment où tu es censuré par la compagnie qui a arrêté le show, par des
diffuseurs, de
par des institutions gouvernementales comme Téléfilm ou la SODEC, à partir du moment où tu es censuré par ce monde-là, Qu'est-ce qui se passe? Les gens, producteurs inclus, veulent avoir des contrats. Donc, ils vont rentrer dans le canal en question pour éviter de faire de la controverse qui va faire en sorte qu'ils ne font pas leur projet. Puis souvent, ce projet-là est nécessaire à leur survie. OK? Alors donc, ça oblige les réalisateurs, les scénaristes à rentrer dans des créneaux
à faire, l'auto-censure. Ah,
mais oui, c'est qui est pire.
Ben, je sais.
Qui est pire.
Je sais, mais c'est parce que... Alors, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire ou parce qu'on n'a pas les moyens financiers, parce que maintenant aussi, ça a diminué, mais surtout parce que on ne peut pas traiter de sujets qui vont faire en sorte que les diffuseurs ou les institutions gouvernementales vont se mettre dans le trouble et vont être obligés de défendre ça auprès de...
Ils veulent pas faire ça. Un réalisateur, un artiste doit représenter la réalité. Les Hells Angels, c'est des Québécois de souche. C'est ça. C'est la réalité.
Oui.
Toi, tu es là pas pour montrer comme la réalité comme on voudrait qu'elle soit. Tu es là pour montrer la réalité comme elle est. La réalité comme elle est, c'est que les pimps sont souvent des noirs. Je dis pas que tous les noirs sont des pimps, mais c'est ça la réalité.
Oui.
Bon. Mais tu peux pas faire ça dans une série aujourd'hui. Mais non. Là, parce que là, on va dire, hey, tu montres que les noirs, c'est des pimps, fait que tu vas montrer que
le pimp est blanc. Tu pourrais le faire s'il y a une rédemption au bout de la ligne.
Sauf que c'est pas comme ça, tu comprends. Alors, à un moment donné, t'es pogné avec, oui, tu veux pas faire des stéréotypes racistes, mais en même temps, oui, il faut que tu montres la réalité telle quelle. La mafia, c'est les Italiens. Qu'est-ce que je te dis?
Ça a toujours été statutairement.
C'est ça qui est ça, la réalité. Ça veut pas dire que tous les Italiens sont dans la mafia.
Alors, la censure est devenue beaucoup plus pernicieuse parce qu'elle s'infiltre et elle oblige les artistes, si tu veux, à se ranger dans ce créneau-là, parce qu'autrement, ils ne survivront pas. Ils n'auront pas leur projet. OK?
Toi, tu disais, parce que quand on s'est rencontrés dans le lobby tout à l'heure, je disais, qu'est-ce que tu fais? Ben, il me dit, j'ai un peu de difficulté en ce moment. Est-ce que tu t'obliges, quand tu présentes un projet, parce que tu en présentes, est-ce que tu t'obliges à ces critères-là?
Non.
Et c'est pour ça que tu n'es pas financé.
Et donc, ça en revient à, ça fait 2 ans et demi que je suis en chômage, là. J'ai plus de carte de crédit, j'ai plus rien. Mais ça, c'est correct. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est mon problème. Mais pourquoi c'est comme ça? Parce que, 2 choses. Je suis vieux. La plupart des producteurs avec qui j'ai fait affaire sont en retraite ou sont morts. Les producteurs sont plus jeunes, en général, ils ont leur gang. Donc, toi, t'es un peu exclu.
Quand t'étais jeune, tu disais dégagez les vieux, faites la place aux jeunes.
Mais Christian n'avait pas de vieux dans mon métier.
Ah oui, il n'y en avait pas.
C'est
vrai, il n'y en avait pas. Il n'y avait pas de cinéaste.
C'est vrai, il n'y en avait pas.
Vous avez été dans la première batch, la première couvée. Mais oui, c'est très répondu.
Fais-moi pas chier, là.
Vous l'avez créé, la job, il n'y en avait pas.
C'est ça. Donc, puis il y a bien dans le milieu, encore aujourd'hui, il y a bien des gens qui n'ont pas aimé les films que j'ai faits ou les séries que j'ai faites. Donc, ils n'ont pas tendance non plus à m'accorder un break, OK? Donc, tu te retrouves un petit peu coincé, isolé. Tu as beau soumettre des projets, tu as beau demander à des producteurs, ben donnez-moi-en. Non, je ne coûte pas cher si je m'adapte au budget que vous avez.
Ah oui, parce qu'il y a de moins en moins d'argent.
Et,
il n'y en a plus d'argent.
Donc, l'âgisme est multifacette. C'est qu'il y a beaucoup de circonstances, dans mon cas, moi, qui fait en sorte que l'âgisme devient un facteur. Un facteur parce que je suis vieux, puis qu'ils veulent pas de moi, puis qu'ils aiment pas surtout ce que j'ai fait dans bien des cas. Ah, tu sais, moi, j'avais un projet extraordinaire de comédie dans le Sud, OK? Mais mon producteur, à ce moment-là, n'était pas acceptable par téléfilm et tout ça. C'était pas très cher, mais lui a essayé de sonder d'autres producteurs pour pouvoir s'associer puis faire ça, dont quelqu'un d'une autre ville. Et cette personne-là a dit, ben oui, je suis libre, tout ça. C'est Jean-Claude Lard? Non, ça ne marche pas.
C'est ça.
J'avais fait Les Criminels.
Ben oui. Ben...
Puis elle a peur. OK.
Les Criminels, ton documentaire sur la prostitution.
Oui, c'est ça. Parce que j'ai fait ça dans une optique bien particulière où j'ai pas mis les clichés des filles, ça a dope dans la rue, puis tout ça. J'ai pas mis ça partout.
Tu vas voir le film sur Internet, tu l'as comme donné sur Internet.
J'ai donné, effectivement. Parce que même là...
Il n'y a aucun diffuseur qui voulait diffuser.
D'une part, mais surtout, quand le film est sorti, je n'ai pas réussi à avoir d'entrevue.
Ça, je trouve ça hallucinant.
Que ce soit Paul Arcand, que ce soit René au miroir, que ce soit...
C'est bizarre. Il y a des... Pas toutes les prostituées, mais il y a des... Tu sais, on fait pas la différence entre « les » et « des ».
Ouais.
C'est pas la même chose.
Et des adultes consentants.
Et il y a des prostituées qui font ça, puis qui sont pas battues, qui ont pas de PIM, qui font ça parce qu'ils préfèrent faire ça que travailler d'une usine, travailler d'une shop, ils sont mieux payés, ils aiment la job, etc. Tu peux pas dire ça.
Non, tu peux pas.
Non, mais j'avais quand même sexologue dans le film. J'avais...
La fille de Stella qui est fabuleuse.
Et tout ça. Donc, j'avais tout ça qui...
Mais t'as pas eu d'entrevue. Donc, t'as pas eu ce qui est essentiel.
C'est la fille à 88.5 le matin. Là,
Catherine Perret?
Le matin, Isabelle Maréchal.
Isabelle Maréchal. Elle nous a donné une heure d'entrevue là-dessus. Mais c'est tout. Donc, n'ayant pas d'argent pour faire de la promotion, parce que le film s'est fait gratuitement pour tout le monde, à ce moment-là... Tu dis, ben oui, mais...
Je voudrais faire une parenthèse sur Bingo. OK? Ça prenait tellement des couilles en béton armé faire ce film-là. Ouais. Moi, je l'ai vu je ne sais pas combien de fois. Et la fin de Bingo me rentre tout le temps dedans, là. Incroyable.
Peux-tu raconter pour des gens qui n'auraient pas vu le film?
Alors, c'est inspiré librement de ce qui s'est passé en 1970, la crise d'octobre.
Exact.
C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Laisse-moi juste faire une... Non, laisse-moi faire une...
Jour bien lui qui a fait écrit ce film, Richard, excuse-moi.
Ce scénario-là est écrit en 68, avant les écrits d'octobre.
C'est extrêmement prophétique. OK, mais mettons, ça parle d'une révolution d'une gang de gauchistes.
OK.
OK, qui kidnappent des politiciens, etc. OK. Et
moi, je vais vous surprendre
tous ces gens-là ont été manipulés par les pouvoirs en place pour pouvoir justement assurer leurs prochaines élections, créer la peur.
La loi est là.
Bingo est sorti.
En 73.
C'était là qu'ils se font tuer par des policiers parce qu'ils ont été naïfs. À l'époque, là, il fallait des
couilles en or.
Dire ça. Parce que tout le monde a fait le parallèle de la crise d'octobre.
C'est sûr.
Là.
OK.
C'est
alors,
sûr.
Daniel d'abord, puis Jean-Claude ensuite.
Je vais vous surprendre. Qui j'ai fréquenté à l'époque?
Vallière.
Robert Lemieux.
L'avocat.
L'avocat
des Felkistes.
Chez les Felkistes.
Fréquenté.
Fréquenté. À Kamouraska. C'est un ami, mais bon, un flirt.
OK.
Et j'allais à Kamouraska rencontrer ces gens-là régulièrement. Les Felkistes. Ils étaient profondément convaincus de ce qu'ils allaient faire.
Ouais.
Profondément. Il n'y avait aucune...
Avant les événements.
Ouais.
Donc, alors qu'ils préparaient ça,
Et pendant aussi, parce que le mieux est arrivé pendant qu'ils ont fait le drame. Mais il m'a amené dans ce nid-là, à Kamouraska. On passait les fins de semaine à boire et à s'amuser Puis j'ai été admise, je me rappellerai tout le temps, ils se parlaient entre eux, puis à un moment donné, ils se sont tous retournés, puis on dit « On t'aime, Daniel Louis, mais ça, je venais d'être acceptée dans la gang. »
Mais est-ce qu'ils te paraissaient naïfs?
Oui, absolument. Mais oui et non, c'est-à-dire que c'était comme les kamikazes d'aujourd'hui. Garde, ça passe ou ça casse. Mm-hmm. Puis on va essayer de le faire, puis il faut le faire, et puis on y croit profondément,
absolument,
tu sais.
Absolument.
Ils y croyaient profondément. Manipulés ou pas, s'ils l'ont été, ils l'ont peut-être jamais su. Et je suis allée les voir en prison. J'ai des photos avec eux en prison. Oui. J'ai des photos, je peux vous les montrer avec eux en prison. Ben oui. mais pour
parce
eux...
Parce que tu fréquentais Robert Lemieux.
Oui, exact.
Mais qui tu voyais, Jean-Croce, Paul Rose? Puis
je les ai toutes vues.
C'est vrai?
Oui. C'est bizarre. Hein? Je pense qu'on ne me connaît pas.
grand-mère d'Ada, finalement, elle n'a dedans. Hein?
Donc, à un moment donné, tu as une période activiste politique. Là.
C'est-à-dire que...
Non, ça ne veut pas dire qu'elle était activiste
Je ne voulais pas rentrer en... Moi, écoute, je vais te dire bien franchement... J'ai un problème avec la politique parce que je suis amie avec toutes les parties. Je suis sortie avec Pierre-Éliott Trudeau, puis j'ai fait la fête des 80 ans de M. Parizeau. Tu sais, je veux dire, oublie ça, là.
Moi, je veux savoir. Tu viens de dire, je suis sortie avec Pierre-Éliott Trudeau. Il était comment?
Il était très bien.
Non, mais t'es-tu, c'est comme un
gentleman. C'est comme un lit.
Non, j'ai pas couché avec lui. Non, non. Mais j'allais au 24 sur Sex Drive, on avait des repas où on discutait mondialité, c'était extraordinaire. J'ai appris des choses avec lui qui sont absolument fabuleuses. Notre premier ministre actuel venait le soir en pantalon avec des petites pattes, avec la dompeuse en arrière, faire montrer ses devoirs à son père. Et puis, écoute, c'était incroyable parce qu'on mangeait à une table à 24 sur Sex Drive et lui, il vidait la maison sauf le cuisinier. Et après ça, il ne voulait plus avoir personne dans la maison. Et quand on mangeait, à un moment donné, il faisait fermer, à 6 heures le soir, il faisait fermer les rideaux. Je dis, mais pourquoi? Ah, il dit, c'est une loi ici. Mais je dis, pourquoi c'est une loi? Il dit, le service de sécurité m'a dit que on est dans un jardin et je pourrais être tirée.
Ah, oui. Ah.
Je pourrais être tirée d'un arbre ou à distance
de l'extérieur
si je m'assois à cette table-là. Alors, en plein soleil, il fallait qu'il ferme les rideaux pour pouvoir manger en paix.
Attends, j'ai comme mal à la tête. Daniel Willis qui fréquentait le FLQ puis qui mangeait derrière la trudeau. Excuse-moi, là.
Ben oui.
Mais finalement, t'étais une guidoune de la politique.
merci du terme.
Non, tu sais que dans ma bouche, c'est extrêmement affectueux. Non, mais c'est la preuve que justement, donc tes amitiés ou tes sensibilités faisait que t'étais pas sectaire, mais c'était pas
mon chef, c'était Monsieur Lévesque. C'était pas Monsieur Lévesque, c'était Monsieur Parizeau.
T'étais proche de lui.
Oh, quel homme!
Monsieur Parizeau, je l'imagine tellement froid, cet homme-là.
Oh non.
Avec ça, ça monte dans de gousset.
Oui.
Ça montre en
main. Écoute, il mangeait jamais. Tous les soirs, il mangeait, puis il fallait qu'il ait la cravate à table. Non. Mais c'était un homme...
Mais il était chaleureux.
Oh, quel homme! À un moment donné, je me rappelle, c'était un des beaux moments que j'ai vécu avec M. Parizeau. Il avait une maison dans les cantons de l'Est. Et il disait, Daniel, nous allons aller prendre un petit verre dehors, si vous permettez, parce que il faisait frette. Je dis oui, puis il y avait ses chaises de jardin sur son balcon. Ouais. Et là, on s'habillait, etc. Et il prenait un verre de vin. Et là, il me parlait de son Québec.
Ah, ouais.
Laisse-moi te dire, j'ai les plus belles choses que j'ai sues sur mon pays. Hein? C'est lui qui me les a données.
Mais tu dis ton pays, donc t'es une indépendantiste.
Ben, il y a une grande chance.
Une indépendantiste qui disait pas non d'aller boire un verre de vin avec Pierre-Éliott Trudeau.
Ben non. Puis, tu sais, Vancouver, moi, ça veut rien dire, là. Mais c'est vrai que quand tu te rends là, tu te dis, je suis encore chez nous. ça fait bizarre, mais c'est ça. On est complètement un pays. Mais ça m'a permis de voir, avec le travail que j'ai fait en Europe, aux États-Unis et partout, ça m'a permis de voir qu'on est vraiment unique au Québec. On est unique.
Oui, c'est ça.
Tu le sais, tu en parles dans tous tes films.
Je backtrack. Est-ce que tu penses, Jean-Claude, que les Felkistes étaient des naïfs qui se sont fait manipuler?
Je ne le sais pas. Ce que je sais, c'est qu'ils étaient très convaincus de ce qu'ils faisaient. Mm. Moi, ce que je voulais démontrer là-dedans, puis encore une fois, c'était écrit avant la crise d'octobre.
C'est-tu toi qui écris le scénario?
Oui.
Tout seul?
Tu dis que tu l'as écrit en 68.
Oui. Le but, c'était juste de dire, un, faites attention à qui vous faites confiance, première des choses. Puis deuxièmement, regardez bien comment on peut vous manipuler ou pour créer du désordre ou pour l'exploiter en vue de se faire élire au nom de la loi et de l'ordre.
C'est ça, d'ailleurs, Renaud Miroy disait « On ne peut pas vivre au Québec en 1973 sans avoir vu Bingo. »
Il y a eu 500 000 personnes qui l'ont vu au guichet. Ouais. Mais ça, aujourd'hui, à 10-12 piastres...
Moi, je pense que j'avais vu, écoute...
5 millions.
J'avais vu 5-6 fois la même semaine, je pense. J'avais complètement capoté ce film-là. Mais qu'est-ce qui t'a amené à écrire ça en 68? Tu le sentais venir, cette affaire-là?
Bien, c'était les événements mai 67, 68 en France. C'était le mouvement hippie puis la guerre contre la guerre du Vietnam.
Tu sentais que ça s'en venait?
Oui. Mais ça va se donner.
Le visage des jeunes, puis ce film-là est très pertinent aujourd'hui. Parce que ce qu'il dit, c'est que les gens qui vous embarquaient dans des révolutions, vous le faites de bonne foi.
Mm-hmm. Carré rouge, ça s'appliquerait pour les carrés rouges.
Mais faites attention, parce qu'il y a des gens en haut de vous, mm-hmm. ça fait leur affaire. Peut-être que ça fait leur affaire ce que vous faites, puis peut-être qu'ils vont vous manipuler. Ça, c'est
mais
bon.
Mais tu sais, je regarde, mettons, les carrés rouges qui ont été manipulés, justement, ou dirigés par les syndicats, qui étaient à table avec eux, aux tables de négociation, puis que ça a servi, finalement, je pense juste aux péquistes, à quel point oui, ils ont récupéré ça.
Oui, mais regarde, dans le cas de Bourassa, cette époque-là, là, oui. Il a laissé traîner ça volontairement. Et ça a pris beaucoup plus d'ampleur parce que ça le servait.
Oui, mais ça, tout à fait raison aussi.
C'est ça.
Tu as raison aussi.
Mais c'est parce que c'est une loi immuable dans notre univers.
Il y a toujours des gens qui ont à gagner avec les révolutions.
Quelle est la loi immuable dont tu parles?
Que les gens veulent essayer de s'approprier le pouvoir
à n'importe quel prix.
À n'importe quel prix, en fomentant tous les troubles possibles pour pouvoir, au nom de la loi et de l'ordre, imposer non seulement leur candidature, mais leur élection. Mm. Peux-tu te dire qu'en 70, quand c'est arrivé, j'avais tellement peur que les policiers viennent chez nous puis trouvent mon scénario. Si je serais rentré en prison direct.
Mais c'est capoté que tu as écrit 168, mais
ben, je sais.
Et y a-tu des Felkis qui t'ont parlé de ton film de.
J'en ai entendu parler dans.
C'était un énorme succès, là. Faut pas. C'était énorme. Le bingo, là, c'était le film qu'il fallait que tu vois.
Ah ouais, absolument. Ouais, je sais. Absolument.
Non. Mais c'est le genre de film que j'aimais faire. Que j'aime toujours faire, mais que je ne peux plus faire.
Il avait fait les colombes, après ça, il est arrivé avec cette affaire-là, et on s'est dit, wow! C'est quoi ce buzz de dire
mal? Ça a été suivi par Parlez-nous d'amour.
Oui, ben exactement. Hein?
Ah
ouais.
C'est quatre gros films.
OK, Parlez-nous d'amour. OK.
Je fais maintenant les génuflexions parce que c'est mon film culte de
mais t'as
tous
déjà
les
écrit
temps.
Une chronique où t'as dit que c'était ton film québécois préféré. Ouais. Mais premièrement, ça prenait des couilles, ça prenait du front tout le tour de la tête, ça prenait du courage ou de l'inconscience.
Beaucoup d'inconscience.
De ta part, de la part de Jacques Boulanger qui ne savait pas s'il allait se mettre à dos.
Il s'auto-flagellait.
Ben oui, c'est comme un suicide programmé. Ouais. Mais au-delà de ça, deux choses. Premièrement, tu disais que, dans le fond, avec ce film-là, tu voulais que les gens réfléchissent sur ce qui se passait, puis c'était quoi la réalité de la télé. Puis finalement, cette réflexion-là n'a pas eu lieu. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose, dans ce film-là, tu montrais une réalité qui était à l'époque, qui était que quand tu étais une femme, puis tu voulais réussir à la télé, en musique, peu importe, il fallait que tu couches. Même si tu avais 14 ans, il fallait que tu couches. Fallait que tu suces.
Ouais.
Et c'est précurseur, à la rigueur,
Le premier film, c'est prédateur sexuel, c'est ça?
Ben, c'est ça. Est-ce qu'à l'époque, quand tu as fait le film, est-ce que tu savais que, mettons, Guy Cloutier, c'était un prédateur sexuel?
Non.
Est-ce que, quand c'est arrivé l'affaire de Nathalie Simard, as-tu été surpris ou tu t'es dit, ah ben, finalement, c'est comme ça que ça marche dans le système?
Écoute, tout ce qui est là-dedans, toutes les scènes sont vraies.
Oui.
Ce qui fait la charge de ça, c'est qu'elles sont toutes regroupées en l'espace de 2 heures.
Ouais.
Et ce que je voulais montrer, j'ai dit, quand vous regardez et que vous adorez vos vedettes, savez-vous ce qu'ils pensent de vous autres en arrière? Dans ce milieu-là? Savez-vous ce qu'ils pensent de vous autres? Moi, je vais vous le montrer.
Ils pensent que vous êtes de la marque, que
Daniel,
vous êtes
Daniel,
des
toi,
qui a été victime de ça régulièrement.
Non, mais tu as travaillé dans le milieu de la télé et tout. Ce qu'ils montraient dans Parler d'amour, Les artistes qui payaient pour avoir des textes dans les journaux.
Moi, j'ai jamais connu ça.
Les jeunes chanteuses qui devaient baiser pour faire 45 tours.
Ça, j'ai connu ça.
La petite fille qui devait baiser avec le recherchiste et avec le réalisateur pour pouvoir passer dans une émission de variété. Le mépris que les animateurs avaient envers leur public en disant, regarde, le club des varices, etc. Ça, quand tu as vu, est-ce que tu t'es reconnu une partie de ton milieu là-dedans.
Tu peux pas. Quand tu fais ce métier, tu sais que tout ça existe. Tu sais. Comment t'expliquer ça? C'est dur, hein? Ah oui, c'est dur. T'as des gens qui ont pas de culture, qui sont en poste, à qui on donne un pouvoir en leur donnant une émission, parce que ça correspond à un certain public. Et ceux-là sont les plus crasses parce que c'est ceux qui vont être les plus orduriers. Puis à côté de ça, t'as ceux qui sont des véritables personnes qui veulent avancer, qui veulent progresser, qui veulent te faire faire quelque chose qui va amener quelque part. Et ceux-là, Ben, ils passent dans le beurre parce que toute leur direction, c'est d'aller vers le meilleur. Et qu'est-ce qui est le meilleur? Ben, ce qui est le meilleur, ben, c'est intéressant juste pour la personne qui le fait. Puis pour des gens très, très, très friés sur le volet, alors ils se réfèrent toujours aux orduriers qui, eux, font le scandale. Et donc, t'as cette espèce de dichotomie entre les deux, entre les deux sortes de comédiens, deux sortes d'animateurs, deux sortes
donc,
de...
Donc, il y a le meilleur et il y a le pire.
T'as toujours au-dessus de ta tête, ça dépend à quelle station, ça dépend. T'as toujours au-dessus de la tête, hey, on a ces codes d'écoute. Tu fais 500 000, tu fais 100 000, tu fais 1 million. Et ça restera toujours. J'avais une réalisatrice à Québec, ça, Dieu sait que je remercie le bon Dieu, qui, c'était défendue, qui toutes les semaines me donnait, les commentaires à l'auditoire et qui me disait là, t'as pas dit ça, ça va directement au boss là, à TVA. Alors, mais nous les réalisateurs, on a le droit à ça. Parce que ma réalisatrice me disait, Daniel, une bonne critique, c'est 2000 personnes qui est heureuse ou 2000 personnes qui est malheureuse. Alors, si à un moment donné, il y a 12 000 personnes qui disent que Julie Snyder, parce que c'était elle qui était appelée blastée à l'époque où j'étais, si t'as 50 personnes qui disent Julie Snyder a outrepassé, et tu peux être sûr que le patron descendant en disant « wow, 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 là, t'arrêtes ça, là. T'arrêtes ce créneau-là, là, etc. Et » et c'était toujours comme ça. T'es toujours sujet à avoir la direction qui, à un moment donné, selon ce que la masse exige de toi, demande de toi, à moins que tu sois assez fort pour inventer quelque chose qui est tout à fait à part et qui plaît à tout le monde. Surtout au boss. Si tu n'as pas ça, tu passes à côté de la traque et tu rentres dans le tordeur. Un point, c'est tout. C'est
mais
aussi
dans ce film-là, il faut vraiment aussi louanger les dialogues de Michel Tremblay.
Ouais. Ben oui!
Parce qu'ils sont extraordinaires.
Non, mais c'est hallucinant, parce que Michel, sa grande force, c'est d'écrire comme le monde parle.
C'est ça.
Et c'est pour ça que ça était si réaliste. Absolument. C'est que les dialogues, tu t'écoutes le film, ça semble réaliste, mais c'est aussi que c'était basé sur plein d'entrevues. Toi, tu avais interviewé longuement Jacques Boulanger.
15 heures d'écoute, je pense.
15 heures d'écoute et plein de gens du milieu. Et donc, c'était tout basé sur... C'était quasiment un documentaire,
vous savez, en fait. Vous le savez, vous écrivez tous les jours. D'ailleurs, je vous lis tous les jours. Le plus dur, c'est de synthétiser.
C'est certain qu'il y a des bonnes choses qui se passent dans le milieu du showbiz. Alors, là, les gens ont dit que ça se peut pas que ce soit rien des laideurs. C'est pas ça, les bonnes choses, on vous les montre et on vous en parle à longueur de jour. C'est pas ça. Mon film, là, je vais concentrer toutes les affaires écœurantes qui se passent dans une année. Ouais. Je vais concentrer ça en 1h30. Je vais vous le mettre en pleine face.
2h30.
Et ça, là... Jacques Boulanger.
Oui.
OK? Qui est très bon dans le film. Il est vraiment très bon.
Oui, très naturel.
Mais c'est un excellent. Suicide, moi, je
on est deux
gémeaux.
Je ne sais pas si c'est Jacques était un gémeau, je pense.
Je ne sais pas.
Alors.
Qui est très bon dans le film et qui s'investit beaucoup. Et là, tu regardes ce film-là. Et là, évidemment, à la fin, après, il l'a totalement renié. Mais je ne peux pas lui en vouloir parce que, écoute, les gens ont dit, le gars qu'on voit à l'écran, c'est lui. Le gars, là, il sentait qu'il n'y avait plus de carrière.
Mais je ne comprends pas qu'il
bon,
fait ça.
Là, il a renié le film. Bon. Avec toutes sortes de...
Moi, je te dis pourquoi il a...
Mais courageux ou vraiment inconscient?
Je l'ai côtoyé pendant un an.
Oui.
À Boubou dans le métro, où je faisais des chroniques de cinéma. Puis là, il commençait à me parler de toutes sortes d'affaires qui se passaient dans le milieu. Que je connais. Le milieu du showbiz, c'est bien différent du milieu du cinéma. Okay? Ce n'est pas du tout la même chose. Donc, je ne connaissais pas. Et à force de m'en raconter, à un moment donné, j'ai dit, t'entends-tu qu'on fasse un film avec ça? Il dit, oui, chez Curry.
Chez Curry, c'est spécial.
Oui, chez Curry. Juste pour finir, j'ai écœuré de tout ce qui se passe derrière.
L'hypocrisie.
Hein? L'hypocrisie. De cette hypocrisie-là,
ben
puis tout ça.
Exact.
Et il espérait, en faisant un film comme ça, se développer une autre carrière de comédien.
Et!
OK? Et?
Mais ça, c'est naïf, là.
Attends,
le
mais
gars, il
n'a
pas pensé que son public
ben non, c'est
aurait,
ça.
Se serait retourné contre lui.
C'est-à-dire qu'il aurait fallu qu'il fasse quelque chose de très sérieux, de très, très rigide après.
Mais qui n'avait rien à voir avec son personnage.
Et qui n'avait rien à voir avec son personnage, puis on aurait compris que c'est ça qu'il voulait faire, mais il ne l'a pas fait.
Ce et puis, on ne lui a pas donné, non, en plus de ça. Ceci dit, ouais. On ne lui a pas donné.
Ce qu'il a sous-estimé.
On l'a pas donné, moi, après, ouais. Non plus.
C'est l'impact de ce film-là.
Bien oui.
Parce que quand tu le lis scène par scène, tu dis, ouais, ouais, OK. Mais quand tu vois tout ça ramassé en image pendant 2 heures,
exact.
C'est une charge énorme.
Exact, exact.
Et là, il a freaké le lendemain de la première.
Mais le film, mais, de toute façon, a été, c'était silence radio de toutes les
mais
médias.
Mais c'est ça, une fois qu'il était le lendemain de la sortie.
Ils n'ont pas parlé du film partout.
Personne ne voulait en parler. Personne ne voulait en parler.
Personne.
Il n'y a pas eu moyen d'avoir une seule entrevue pour que le débat que le public voulait générer n'a jamais eu, a peut-être eu lieu dans les familles et tout ça, mais il n'a jamais eu lieu publiquement.
Mais quelle crise de film!
On va trinquer à ça, parce que c'est pas mal la fin de notre devine qui vient souper. Il est 10h15.
Il est 11h15.
Ah ouais,
10h15. Attends, moi, je peux pas trinquer avec un verre, sinon c'est 7 ans de mauvais sexe, puis ça me tente pas vraiment.
Tu peux me donner un peu de rouge?
Tu veux de rouge?
Ah oui, de miel.
Bon, merci beaucoup pour cette belle soirée.
Merci, merci.
Des beaux souvenirs.
Merci.
Ça me frappe, là. Quand on a commencé, tu m'as dit, il y a une question que je veux poser à Jean-Claude, puis Jean-Claude s'en va, et tu lui as même pas encore
parce
posé.
Parce que moi, je connais la réponse, parce qu'il me l'a déjà dit dans un restaurant à Saint-Lambert, on s'est croisés. Mais là, il va te le dire. Il y a une scène dans Parlez-nous d'amour, un film que j'ai vu des gonzillions de fois. Alors, il y a une scène où Jacques Boulanger est devant le Club des Varices et s'imagine son public tout nu. Et là, tu as une shot incroyable d'à peu près 100 bonnes femmes de 60-70 ans.
Ouais.
Pas des. Tu sais, pas de catégorie A, là. Tout nu. Alors là, ma question, c'est que Taboire, comment il a réussi à faire pour rassembler des bonnes femmes comme ça, de se sacrer tout nu devant une caméra, Jean-Claude?
C'est une question que je me suis posée, puis il y a un assistant réalisateur qui m'est arrivé. Ben, il dit, c'est bien simple. Ils appellent un club de nudistes.
Exact.
Et on a appelé un club de nudistes. On ne pourrait plus faire ça maintenant. Mais les 100 madames sont venues. Et on les a tournées. Nous autres, on se sentait un petit peu mal à l'aise. C'était pas des beautés. Hein?
Vous êtes mis tout nu pour les guests sans à l'aise?
Non, on ne s'est pas mis tout nu. Mais une fois que ça a été fini, les madames se sont approchées de Jacques Boulanger. Tout nu.
Tout nu?
Elles étaient encore tout nues.
Oui, elles
Elles voulaient se faire prendre des photos avec lui pendant qu'elles étaient tout nues. Ben, c'était pas des selfies à l'époque, mais c'était des photos. Et je pense que, disons que j'ai encore reculé un peu.
Très drôle.
T'es facile à shooter, finalement.
Alors, Richard, tu feras ça quand la prochaine fois que tu animes les Francs-Tireurs, tu vas imaginer tout ton public tout nu à Télé-Québec.
Ben, juste là, on va se rhabiller là, parce qu'ils sortent. Là,
Ah ouais, les gens ne savent pas, mais on a fait toute la soirée tout nu. Hey, merci beaucoup, Jean-Claude.
Merci, Daniel.
Vraiment un plaisir.
Plaisir.
Salut, monsieur. À une prochaine.
Merci.
Vous avez écouté le balado Devine qui vient souper avec Richard Martineau et Sophie Durocher. Prise de son, Bastien Gagnon La France. À la recherche, Hugo Veilleux. Au montage, Philippe Seguin. Co-réalisation, Anne-Sophie Carpentier. Chef réalisateur, Bastien Gagnon La France. Une idée originale de Mathieu Turbide. Une production Cube Radio.